regarder certaines clés ici d'Apocalypse, on ne pourra pas tout finir, ce sera impossible. Premièrement, je voudrais parler d'une conception de temps avant d'aller plus loin. L'Apocalypse n'est pas forcément chronologique dans ses pensées. Pensez à la grande statue de Daniel, chapitre 2. De Daniel, il y a une statue, la statue a la tête d'or, poitrine en argent, les cuisses en airain, les jambes en fer, et les pieds mélangent de fer et d'argile. On voit la statue dans son entièreté. Et Daniel dit au roi, ce rêve que vous avez fait de cette statue représente 4 royaumes. Et le premier, c'est toi, Nebuchadnezzar, la tête d'or. Tu sois suivi par un deuxième, un troisième et un quatrième. Maintenant, dans le rêve qu'il a fait, il a vu une pierre qui s'est fait détacher d'une montagne sans main, qui est venue, qui a frappé la statue et toute la statue est tombée. Et lui parlait du fait que ça, c'est le royaume qui va être établi, c'est le Christ qui va faire tomber cette statue des 4 royaumes. Quelle est la logique du temps? Est-ce que le Christ a fait tomber le royaume babylonien, médo-perse, grec? Et pourtant, la statue, elle contient les 4 et les 4 tombent. La conception de Daniel dans ses visions apocalyptiques et dans ses interprétations apocalyptiques n'est pas forcément celui que nous avons ici en l'Occident. Il voit les 4 choses comme une unité. Le temps n'est pas forcément vu d'une façon toujours chronologique comme nous on le voit. Dans l'idée de Daniel, Dieu voit les 4 statues en même temps. Les 4 royaumes en même temps, ils forment une certaine unité de royaume universel. Et que toute l'idée des royaumes universels va tomber avec l'avènement du Christ, remplacé par un autre royaume. Et dans un sens, il a détruit l'idée du royaume babylonien, car c'était l'idée d'un royaume terrestre universel. Mais l'idée du temps n'est pas du même sens que nous on le voit. Maintenant, vous prenez, vous allez au musée d'art moderne et vous regardez certains tableaux de Picasso et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est dans le cubisme que la perspective, et il regarde les 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés du même visage. Vous dites, mais c'est pas logique, mais c'est pas logique, mais en même temps, c'est une façon de s'exprimer, de vouloir essayer d'exprimer 2 ou 3 côtés en même temps. Il ne suit pas une logique, qui est la logique que nous, on veut voir avec nos yeux, mais une logique que lui voit. En même temps, il sait très bien qu'on ne peut pas voir 3 côtés d'un bâtiment en même temps, au moins qu'il est vraiment construit d'une façon peut-être comme la nôtre. Mais on ne peut pas voir les 3 côtés d'un bâtiment. En même temps, des fois, j'ai des enfants, ils le dessinent comme ça, parce qu'ils veulent montrer l'idée des 3 côtés, ou parce qu'ils n'ont pas l'idée de perspective. Mais la façon de voir les choses, de temps, n'est pas la même que la nôtre. Souvent, on veut montrer 2 ou 3 points de vue de la même chose. Regardons maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu. Oui, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais vu en pluriel comme ça. Oui. Dieu, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. Bon, quand est-ce que ces 4 êtres vivants disent ça? C'est des anges. Vous allez dans les Anciens Testaments, Ézéchiel surtout, vous allez voir l'idée des êtres vivants, les chérubins. Ça. Maintenant, quand est-ce qu'ils disent Saint, Saint, Saint? Jour et nuit, tout le temps, perpétuel. Il n'y a pas de point là de temps, c'est continu. Le temps est vu comme quelque chose de linéaire là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un point de temps, c'est continu. Mais regarde ce que j'en fais, change complètement de point de vue encore. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Comme ça, quand est-ce qu'eux, ils se prosternent? Et perpétuellement. Hein? C'est l'idée qu'on a, totalement, continuellement, perpétuellement. Hein? Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Quand est-ce qu'ils jettent leur couronne devant leur trône, le trône? Perpétuellement, mais comment on peut jeter une couronne perpétuellement? Une fois jetée, c'est jetée. Vous voyez que Jean, quand il fait sortir l'idée du temps, n'est pas forcé à avoir une structure comme nous on a. Et c'est ça que je veux faire sortir. C'est un livre d'images. Il y a l'image ici de Saint Saint Saint, il y a l'image des gens qui jettent leur trône. Mais on n'est pas obligé de définir est-ce qu'ils ont jeté leur trône une fois, est-ce qu'ils jettent leur trône, ils le reçoivent pour le rejeter encore, est-ce que leur trône est continuellement jeté et que c'est à faire un boomerang et ça revient, et comment ça peut marcher ça? Ça ne marche pas, ce n'est pas fait pour marcher comme ça, c'est fait pour être vu dans les images qui sont là. On doit sentir ce qui est dit. Sentir que voilà, ils sont en train de dire perpétuellement Saint, 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 et que là, pendant ce temps-là, on voit les vieillards, et on voit qui sont les anciens. Vieillards, anciens, anciens, je crois que c'est une meilleure traduction. Hein. Les 24 anciens. 24, c'est chiffre, 12 tribus, 12 apôtres, c'est les sauvés de Dieu, ça représente les dirigeants des sauvés. Les anciens, c'est les dirigeants d'église. Ils jettent leur couronne. Voilà, c'est une image, mais qui ne reste pas dans le temps. Maintenant, Jean, dans l'Apocalypse, fait ça tout le temps. Il reprend des images, il regarde de différents points de vue. Et il regarde du point de vue de Dieu, il regarde du point de vue de l'homme, il regarde du point de vue de Satan. Et pour moi, c'est la même image qui est repris. Et c'est là le problème après cela. Après cela, j'ai vu. Après cela, c'est passé. Après cela, et la chronologie est ici une autre perspective de la même chose. Nous, on veut toujours chronologique. Vous voyez les films américains, les westerns, là, les gens sont en train de se promener en cheval pour arriver en même temps que sauver quelqu'un. Et là, on voit les méchants, et on revient au cow-boy, on revient aux méchants, on revient au cow-boy. Est-ce qu'il va arriver à l'heure? Et le va-et-vient. Tandis que pour d'autres cultures, eux, ils vont montrer tout ce qui se passe par les méchants, après ça, revenir sur les pas et commencer comment que les bons ont reçu les nouvelles et comment ils ont parti et tout ça. Pas forcément rester dans l'ordre chronologique. Il faut bien admettre que notre culture, elle est obsédée avec cette idée de chronologique. Si vous ne croyez pas, regardez ce qui se passe à 5h moins 5 dans les bureaux. C'est vraiment à la minute près. C'est la chronologie, le temps vraiment précis. Moi, je vais vous donner mon idée ici, puis j'ai vu descendre, chapitre 20, du ciel un ange. Deux possibilités d'interprétation. Hein? Peut-être c'est un ange. Et peut-être c'est le Christ. La raison que je pense qu'il y a une possibilité que c'est le Christ, c'est que peut-être que uniquement le Christ à la puissance de lier Satan. Et on voit tellement de passages qui parlent de l'idée. Maintenant, ce n'est pas étrange, parce que dans l'Ancien Testament, le Christ est appelé l'ange de l'Éternel. L'ange veut dire messager. Le Christ est le messager de l'Éternel. Et le passage qu'on a vu même dimanche, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel », qui est le Christ. En même temps, peut-être c'est une ange. Une question d'interprétation, ce n'est pas trop important. Qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Et il saisit le dragon, le serpent, et qui est le diable, et il le lie pour 1000 ans. Il jetait dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il fut délié pour peu de temps. Je crois ici que ce qui se passe, c'est que Satan est pris, et d'après les points de vue de l'Église, il est lié pour 1000 ans. Et le mot 1000 ans veut dire un long bout de temps. Je te l'ai dit 1000 fois. Est-ce que ça veut dire littéralement 1000 fois? Non. Et dans les chiffres symboliques juifs, c'est la même chose. Il y a un passage dans Psaume 50, je crois, verset 10, qui dit, littéralement, ça dit, les brebis sur 1000 collines m'appartient. Et les brebis sur 1001. Hein? Ça n'appartient plus? Hein? Ça veut dire les brebis en grand nombre, toutes les brebis m'appartient. C'est ça. Et c'est comme ça, il y a le règne ici. Parce que tous les chiffres ont un symbolisme, et parce qu'on veut mettre des chiffres, j'en mets des chiffres partout, on ne va pas rentrer dedans, l'idée de temps et ça. Mais ici, Satan est lié pour 1000 ans. C'est-à-dire que pour l'Église, Satan, il est lié pour 1000 ans. Maintenant, c'est le même mot qui est servi, où quand Jésus dit à quelqu'un, vous allez dans la ville et vous allez trouver un âne lié à un poteau. Est-ce qu'il avait les mains et les pieds attachés? L'âne. Hein? Quand on va lier un âne à un poteau, est-ce qu'on va lui attacher les mains? Non, il est lié, il est attaché au poteau, c'est tout. Hein? Et ici, lui, il est attaché avec une grande chaîne. Comme ça, il y a deux possibilités d'image. Qu'on l'entoure avec la chaîne bien liée, ou qu'on lui met la chaîne au cou ou quelque part, et qu'il est lié. Hein? Qu'il ne peut pas aller plus loin que ça. Et je crois que c'est la deuxième image ici qu'il a en tête. C'est qu'il a ici maintenant des limites bien définies. Et c'est ça, ça va être pour très longtemps. Plus tard, on va le prendre, on va le jeter dans l'abîme, ce sera la fin, ce sera l'éternité. Mais jusqu'à ce temps-là, il est lié. Et pour l'Église, il est lié. Il ne peut pas nous toucher. Ça, c'est l'idée ici de cette idée d'être lié. Maintenant, je crois que quand on voit du perspective de Satan, il est délié pour peu de temps. Pour Satan, le 1000 ans, c'est pas longtemps, c'est peu de temps. Parce que pour lui, il sait qu'à la fin, c'est la destruction. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, et dans une semaine, on va vous pendre. Mais il ne reste plus de temps. Tandis que j'ai dit à mon fils, pour une semaine, tu ne vas pas voir la télé. Mais c'est longtemps. C'est 1000 ans, ça. Ça dépend comment on voit la perspective des choses. Pour Satan, devant lui, il y a quelque chose qui lui attend. C'est la fin. Hein? Il lui reste peu de temps avant sa destruction. Pour les chrétiens, Satan est lié, il ne peut pas les toucher. Maintenant, en même temps, il est délié. Comment on peut être lié et délié en même temps? Mais c'est impossible. Comme ça, Jean a mis un après l'autre chronologiquement. Mais l'idée de Jean dans tout ça, c'est que pour les chrétiens, il est lié. On ne peut pas les toucher. Mais en même temps, Satan peut rôder, aller où il veut, dans ce cercle, alentour de sa chaîne. Moi, je me souviens, pas trop loin de chez nous, il y avait un chien très méchant qui était lié avec une chaîne. Et on allait à une certaine distance, on lui faisait des grimaces, on faisait toutes sortes de choses, il ne pouvait rien nous faire. On lui criait, on aboyait pour le faire aboyer, mais jamais qu'on s'avançait dans son cercle. En même temps, bon, peut-être qu'on l'aurait gâté, parce qu'un jour il a cassé sa chaîne, il m'a mordu, mais en tout cas. Ici, l'idée d'être lié, Satan ne peut pas nous toucher, en même temps, il est libéré, en même temps, il a tout un royaume dans lequel il peut bouger et faire ce qu'il veut. Maintenant, on revient à cette idée de 1000 ans, parce que le temps ici, il saute, hein? Il y a trois fois ici, il y a deux fois que le règne de 1000 ans est mentionné. Premièrement, il est lié pour 1000 ans, après ça, l'idée qu'il est lâché pour peu de temps, et là, on revient encore à l'idée des trônes et tout ça, qui parle de l'idée que qui règne pour 1000 ans. Mais regardez qui est en train de régner. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. C'est un livre de confort pour les chrétiens qui sont prêts à perdre leur vie dans les arènes romaines. Ce n'est pas un livre qui a été donné pour vouloir prédire qu'il y aurait ici toutes sortes de méchancetés pour les premiers 2000, les prochains 1000 ans. Imaginez-vous ici un livre qu'on va écrire à des chrétiens, ils sont prêts à être mis dans les arènes, et on dit prenez confort, prenez courage, car il va y avoir beaucoup de faux prophètes, l'Église va tomber dans l'apostasie, il va y avoir beaucoup de misère. Mais en tout cas, soyez encouragés. Ça ne m'intéresse pas, moi. Mais c'est un livre d'encouragement. C'est pas dans le futur il va avoir toutes ces méchancetés-là. C'est que devant vous, vous avez ces méchancetés et vous êtes vainqueur. Et ici, vous allez perdre votre vie, mais vous régnez avec Christ. Maintenant, qui va régner? Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils reviennent à la vie et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Le règne de 1000 ans, c'est le moment où les gens reviennent à la vie pour régner avec Christ. Quand est-ce que Christ règne? Est-ce qu'il règne maintenant ou non? Où est l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il a dit? Où il allait tout de suite après qu'il va mourir? Avec le Christ. Il revient à la vie, il règne avec le Christ pendant 1000 ans. Si le Christ ne règne pas maintenant, je veux savoir qui règne. S'il règne maintenant, c'est de ça qu'on parle. Si l'apôtre Paul est avec le Christ maintenant, mais il est avec le règne, autrement, où il est l'apôtre Paul? Parce que ceux qui reviennent à la vie, ils règnent avec le Christ. Et l'apôtre Paul, comment est-il mort? On n'est pas sûr, mais la tradition nous dit qu'il a été décapité à Rome. On n'est pas sûr, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on a l'impression que la mort de Paul, c'était par la persécution qui est venue sur les églises. Maintenant, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à les 1000 ans fussent accomplis. Ce furent les premières résurrections. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand est-ce qu'on est sacrificateur? Quand est-ce qu'on est sacrificateur? Quand est-ce qu'on devient sacrificateur? Baptême. T'es devenu un prêtre jeudi soir. Et c'est ce moment-là. On n'attend pas après que le Christ va revenir, voilà, pour régner pour 1000 ans, maintenant on va tous devenir sacrificateurs. Non. C'est maintenant. Et maintenant on peut régner avec le Christ. Et si tu meurs ce soir, tu vas régner avec le Christ. C'est l'image ici de confort, de puissance formidable. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces deux résurrections? Et pourquoi il y a deux résurrections? Je ne comprends plus rien. Mais c'est un livre imagé. Ne formez pas toutes vos théories théologiques dans ce livre-là et de vouloir pousser tous les autres passages qui sont si clairs à conformer à des passages qui sont obscurs. L'image ici, c'est que voilà, on va ressusciter les morts pour les faire mourir. Hein? Ils vont mourir deux fois. Ils sont séparés avec Dieu, on va les ressusciter pour les faire mourir encore. Deux fois, ils vont mourir. Hein? Ils n'ont pas envie de mourir la première fois, ils n'auront pas envie de la deuxième fois. C'est vraiment double malédiction qui vient sur eux. C'est une image intéressante. La mort, c'est l'idée de la séparation dans l'idée juive. Comme ça, ils reviennent à la vie pour la mort spirituelle encore, d'être séparés avec Dieu. Deux fois, ils sont obligés de subir la douleur de la mort. Bon, regardons Éphésiens chapitre 2 et verset 6. Quelqu'un voudrait le lire. Éphésiens 2, 6. Paul nous donne l'image ici que nous sommes déjà ressuscités, nous régnons déjà avec le Christ, nous sommes déjà avec le Christ dans les lieux célestes, maintenant. Nous avons déjà eu une résurrection. Et vous regardez tous les passages de la Bible, hein, et l'image qui sont données, qu'est-ce que c'est Israël? Qu'est-ce que c'est le nouveau Israël? Qui est le peuple de Dieu? Qui est le royaume de Dieu? Et tout revient à l'Église. Le Christ est venu pour accomplir ses prophéties, il les a accomplies. Il n'a pas raté son coup. Il est venu pour régner. Maintenant, vous regardez dans le monde religieux aujourd'hui, hein, c'est une confusion totale. On dit, mais Dieu ne règne pas. Exactement, il ne règne pas là. Il règne dans son Église. Oui, mais ce n'est pas évident. Bien sûr, ce n'est pas évident. C'est exactement ce que Jésus a dit dans chapitre 3. Quand il parlait du royaume, il y a quelque chose d'assez intéressant. Les évangéliques disent, il faut être né de nouveau. Es-tu un chrétien né de nouveau? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut être né de nouveau. Pourquoi? Pour entrer dans le royaume.
Et puis, Jean, quand il a écrit, il était dans le royaume.
Exactement, exactement. Mais là, il y a un passage assez intéressant. Parce qu'un passage pour le salut des évangéliques, Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5, il ne touche pas, mais le verset 3, il faut être né de nouveau, c'est concernant le royaume. On parle de Nicodème concernant le royaume. Tu veux le royaume, il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume. Comme ça, ce qu'il est en train de dire. Écoute Nicodème, hein, ton point de vue spirituel est faux, il faut que tu sois né de nouveau, hein, pour entrer dans le royaume, mais le royaume, il ne vient pas avant 2000 ans. Hein, sois patient. Non, ce n'est pas du tout dans le contexte. Le royaume est là. Est-ce que tu es le Messie pour établir ton royaume? C'est la question sous-entendue. Il dit, écoute, hein, pour entrer dans le royaume, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Maintenant, l'idée de pas évident dans ce passage. Il dit, oui, mais je ne comprends pas. Il dit, mais non, mais l'esprit, et là il fait un jeu de mots avec le vent, il souffle où il veut. On ne le voit pas. Hein, ça ne se voit pas. C'est quelque chose, on voit les effets, c'est tout, dans le cœur des convertis. Il y a un passage dans Matthieu chapitre 24, quand il parle ici de la destruction de Jérusalem, il dit, l'avènement du Christ serait comme l'éclair. Hein? Il éclaire l'Orient et l'Occident. Eh bien, où il est, je ne sais pas, mais ça a éclairé, c'est tout. Hein? Il dit l'avènement du Christ, à l'époque, à cette époque, l'avènement pour la destruction de Jérusalem sera comme ça. Ne dites pas, le Christ est là, le Christ est par là. Non, ça ne va être pas comme ça. Ça va être comme l'éclair. Ça, hein, on va voir la lumière, mais on ne sait pas où. Hein, Occident, Orient, ça ne sera pas physique. Et tout l'appui du Christ, hein, c'est un royaume spirituel. Oui, mais dans l'Ancien Testament, c'était un royaume physique. Je ne suis pas convaincu. Je suis convaincu que les images étaient physiques. Mais il y avait assez de sous-entendus dans ces idées-là que c'était quelque chose de spirituel. Ça prend pas énormément d'intelligence pour comprendre qu'Ézéchiel 37, je crois que c'est là où se trouve le passage des vallées des ossements, que c'est quelque chose de spirituel et pas physique. Et ce n'est pas le seul passage dans l'Ancien Testament où il y a des idées ici spirituelles de ça. Maintenant, il y a toutes sortes d'arguments. Oui, mais toute la terre qui était promise à Abraham n'a pas été donnée. Pourtant, il y a un passage qui dit que tout a été accompli. Et si vous ne connaissez pas ce passage, ça semble comme un bon argument. Oui, mais il faut s'asseoir littéralement sur le trône de David. Mais il y a plusieurs passages ici qui nous donnent cette idée d'accomplissement. Il faut accepter les accomplissements comme Jésus les donne. Et les passages obscurs, ne vous en servez pas pour interpréter les passages clairs, mais faites l'inverse. Et là, il y a énormément d'autres choses qu'on peut dire sur le prémillénialisme, parce que c'est une théorie qui est fondée très très longue. Oui. Oui, oui. Oui, c'est ça.
Au même moment que nous sommes ressuscités, il dit que le combat dans le monde se déroule en même temps. C'est dans l'esprit de la rébellion. Quand on voit bien, ce n'est pas comme ça. Enfin, que c'est dans la même
façon. Oui, oui, c'est ça. Mais il n'y aura pas un moment où le Christ va être lié pour 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer pendant que Christ est lié pendant 1000 ans? Hein, quelle sorte de théorie? Ça veut dire que finalement, il n'y aura plus de tentation. Bon, en ce cas-là, on va convertir tous les Juifs. En même temps, d'après les théories, le Saint-Esprit est enlevé de la terre, parce qu'il y a un autre passage qui parle de ça. Sans esprit, comment on peut avoir des conversions? Et il y a toutes sortes. J'ai vu des schémas si compliqués, c'est incroyable. Hein? C'est pas l'air mosaïque, l'ère patriarcale, l'ère mosaïque, l'ère chrétienne, mais vous avez l'ère mosaïque, l'ère patriarcale, l'ère chrétienne, après ça vous avez à peu près 6 petits trucs, vous avez la grande tribulation, vous avez ça, vous avez ci, il y a tous des schémas extrêmement compliqués, je n'ai jamais même essayé de les apprendre par cœur. J'en ai vu un jour, je n'ai même pas voulu l'acheter. Il faudrait que je le fasse juste pour donner un petit peu un exemple de ce que ça donne à la maison de la Bible. C'était un truc long comme ça, avec toutes sortes de petites lignes, toutes sortes de petits détails. Maintenant, vous dites, ah ouais, comme ça, c'est ça. Maintenant, vous achetez un autre, c'est pas pareil. Hein? Ah, mais ils ne sont pas d'accord. Hein? Ce n'est pas tous les mêmes idées. Hein? Parce que c'est... Ouais. Parce qu'il y a des confusions. Et en plus, quand vous avez des choses, ils sont obligés de dire, ils vont restituer les sacrifices. Et des petites choses, ils sont obligés, parce qu'il y a un passage qui parle de ça. Les sacrifices d'animaux à Jérusalem. Et c'est des choses impossibles. Et bon, question. Moi, ce que je crois, c'est que le Christ est venu, il a établi son royaume, nous sommes dans ce royaume, nous sommes dans le millénium, si vous voulez, jusqu'à la fin des temps, à la fin des temps, voilà, c'est la fin, il y a le ciel et c'est tout. Oui.
C'est comme l'histoire des 144 000 justes du témoin de Jéhovah, c'est le cas. Mais ils ne sont pas comptés.
Exactement, c'est la même famille, mais ce n'est pas tout à fait le même, c'est ses cousins si on veut, parce que ça c'est le pré-millénialisme des témoins Jéhovah. Hein? Et à cette époque-là, les évangéliques étaient contre le prémillénialisme, si je me souviens bien. Et étaient contre les adventistes. Non, non, les adventistes sont faux à cause de ça, ça, ça. Maintenant, ils sont toujours faux, mais on a changé de point de vue maintenant. On est d'accord sur cette idée-là ici. Surtout depuis 1948. Parce que maintenant, oui, les prophéties commencent. Mais ce qui est arrivé en 1948 n'a rien du tout à faire avec Israël et l'établissement. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. C'est pas les... Il y a beaucoup plus de juifs à New York qu'il y a en Jérusalem ou dans tout le pays d'Israël. Oui.
Ça, ouais. Si on accepte qu'il est assis sur le trône de David maintenant, ça veut dire qu'il règne sur le trône de David.
Exactement, ça c'est une interprétation divine d'un passage de l'Ancien Testament qui parle de David et régner sur le trône de David et que Jésus règne sur le trône de David. Exactement, l'apôtre Pierre chapitre 2. C'est comme la prophétie de Joël. Exactement, voilà Pierre qui dit ça.